Bonjour Ariane, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Salut Sam, ça fait vraiment plaisir.
Donc Ariane, tu es une actrice connue du monde des PFNL, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu pouvais te présenter en quelques mots, puis aussi parler un peu de ton entreprise Gourmet Sauvage.
Oui, absolument. Tu dis que je suis une actrice connue du monde des PFNL, mais c'est un bien petit monde des PFNL, hein? Donc, on se connaît tous finalement dans ce monde-là. Pour les gens qui ne travaillent pas dans le secteur des produits forestiers, donc oui, je me présente, Ariane Paré-Legal. Je suis la fille de Gérald Legal, qui est le fondateur de Gourmet Sauvage, une des premières entreprises qui a commencé à faire la commercialisation de produits forestiers il y a déjà un peu plus de 27 ans. Et puis, donc, moi, j'ai pris la relève de l'entreprise il y a maintenant 5 ans. Cela dit, c'était pas du tout dans mon parcours de vie, dans mon chemin de vie. En tout cas, je m'y attendais pas. Moi, j'ai travaillé en milieu urbain, en ville, jusqu'à tout récemment. J'ai travaillé dans le domaine des communications, des médias. Et puis, est arrivé un moment où j'ai eu envie, j'ai senti le besoin de recréer ce lien très important entre mon père et moi pour m'assurer que tout son savoir ne serait pas perdu, parce que Gérald est quelqu'un qui n'a pas appris sur les bancs d'école, il a appris sur le terrain, il a appris à la rencontre des autres, il a appris en forêt. Et puis, au moment où j'ai eu des enfants, mais j'ai senti que ce savoir-là pouvait me glisser entre les mains, finalement, dans nos vies qui vont vite. Et c'est un peu ça qui a fait que j'ai fait le grand saut il y a 5 ans. J'ai quitté Montréal. Je suis venue m'installer à Saint-Faustin, tout près de Mont-Tremblant. Et puis, je suis maintenant copropriétaire de Gourmet Sauvage avec mon copain Pascal.
Mais tu sais, quand je dis connu, c'est justement cette étendue grand public. Puis je pense que c'est ton background en médias qui fait peut-être de toi quelqu'un d'unique dans le domaine, qui fait que il y a eu l'émission de télé. Comment elle s'appelait déjà?
Ça s'appelle Courant des bois. On a fait ça, Gérald et moi, il y a déjà presque 11 ans. Et puis, c'est drôle la façon dont ça s'est passé, parce que Gérald avait dans ses tiroirs une émission de télé depuis des années et des années. Puis moi, à ce moment-là, je travaillais à Télé-Québec. Puis je lui ai dit, ben écoute, je vais présenter ton émission. Peut-être que ça les intéresserait. Puis rapidement, on nous a dit, ben non seulement ça nous intéresse, mais vous allez la co-animer ensemble. Et puis, ben mon père avait jamais animé. Moi non plus. Je travaillais comme journaliste en télé, mais comme journaliste, non pas comme animatrice. Puis ça a été un moment charnière, parce que c'est vraiment là que j'ai reconnecté avec tout le savoir de Gérald. Et puis, on parle de communication puis de diffusion, mais je pense que c'est l'essence même de notre travail d'abord et avant tout. C'est-à-dire que chez Gourmet Sauvage, oui, on fait des petits pots, on cueille, on récolte des plantes, on les transforme pour la plupart, pour les revendre au secteur du détail puis de la restauration. Mais ça, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui amène le pain et le beurre sur la table. Mais le plus important de ce qu'on fait, c'est de permettre une reconnexion des gens avec la forêt. Puis ça se fait d'abord et avant tout à travers l'éducation puis la sensibilisation. Puis si on peut se servir de cette chance extraordinaire qu'on a d'avoir une tribune, ben faisons-le autant que possible. C'est pour ça que depuis les tout débuts, on a toujours donné toutes nos recettes, nos trucs de cueillette. On n'a jamais été avare de ce contenu-là, parce que ben oui, peut-être que des gens pourraient nous copier, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a d'abord et avant tout un partage de connaissances qui est nécessaire. Puis quand quelqu'un travaille avec les PFNL, de toute façon, il le fait à sa sauce, à son image, à sa façon. C'est comme une recette, ça ne peut pas appartenir à personne. C'est un savoir qui doit être commun et que malheureusement, on a perdu.
C'est intéressant ça, le lien que tu fais entre produits à valeur ajoutée, tu sais, de la production et l'éducation. Est-ce que vous faites de la transformation puis de la production dans cette idée de diffuser les savoirs sur la flore comestible, ou bien l'éducation est un peu une manière de mieux faire connaître votre entreprise, tu sais, c'est quoi la place de l'éducation dans une entreprise qui veut commercialiser les PFNL?
Je pense que tout est un peu interrelié. Mais à la base de l'entreprise, il y avait un désir profond de mon père de permettre aux gens de se reconnecter à la nature. Il aurait donc pu devenir guide de chiens de traîneau, il aurait pu faire mille et une activités qui l'auraient ramené lui en forêt, qui lui aurait permis d'amener des gens avec lui en forêt. Ça s'est traduit par les comestibles forestiers parce que c'est quelque chose que lui connaissait et qui était extrêmement nouveau à l'époque. Donc, il y avait un potentiel intéressant, il y avait quelque chose d'intéressant à explorer. Mais c'était vraiment ça qui était à la base de son travail. Et je pense que quand quelqu'un achète un petit pot de chez Gourmet Sauvage, une gelée de cèdre, des campres de boutons de marguerite que mon père a créé il y a déjà presque 19 ans, je pense, d'ailleurs. Ça, c'est une autre anecdote que je raconterai plus tard, mais l'histoire derrière ce produit-là est très drôle. Mais quand un client achète notre produit, je pense qu'il y a déjà là un peu d'éducation qui se fait. C'est-à-dire, on a devant nous un produit qui a été cueilli à la main. Donc, il y a derrière ça, il y a du sens, il y a de la réflexion, il y a de l'amour, il y a un temps qui a été pris. Ça a été transformé à la main aussi avec des ingrédients de qualité. C'est quelque chose qui parle à notre ADN parce que ça vient de notre terroir. Donc, déjà, juste dans ce petit pot-là, je pense qu'on communique quelque chose et je pense que les gens le ressentent quand ils achètent les produits ou quand ils consomment nos produits qu'un chef a travaillé dans un restaurant, par exemple. Je dis toujours aux chefs, d'ailleurs, que quand ils reçoivent nos produits ou d'autres produits de la forêt, ils ont une mission très importante de conserver une histoire puis de la transmettre dans l'assiette. Pas juste de mettre en valeur le produit. Ça ne veut pas dire grand-chose de mettre en valeur. C'est de raconter une histoire avec ce qu'on a puis que les gens comprennent l'importance de ce qu'ils sont en train de manger et qu'ils ne le consomment pas comme on mangerait n'importe quel autre aliment. Qu'on le fasse avec sens, avec conscience. Mm-hmm. Puis après ça, la question de l'éducation même là, sur le terrain avec le public, quand on amène des gens en forêt pour leur enseigner à identifier, à cueillir, à cuisiner les plantes sauvages, bien ça, c'est pour leur redonner les clés de la forêt. Le petit pot permet pas ça. Le petit pot raconte une histoire, je pense, il allume une étincelle peut-être. Mais quand on donne ces informations-là en forêt avec les gens sur la cueillette, sur l'identification, bien après ça, ils sont capables de repartir chez eux. Oui, évidemment, en sachant peut-être se préparer une salade à partir de plantes sauvages, mais surtout en ayant un nouveau regard sur leur environnement, en ayant un nouveau respect sur ce qui est parfois vu comme une simple masse d'arbres, de plantes vertes. Sans nom, sans forme, sans utilité particulière. Mais quand on se met à décortiquer, à comprendre un écosystème, un milieu, la valeur des éléments qui sont la valeur du vivant, toute notre relation à l'environnement change. Et c'est quelque chose, je suis absolument pas connaissante là-dedans. J'apprends moi-même tous les jours là-dessus, que ce soit au niveau plus scientifique, plus technique, mais même au niveau plus spirituel, ce lien-là avec la forêt est constamment en train de se tisser, ce canevas se tisse de façon de plus en plus serrée au fur et à mesure qu'on passe du temps dans nos milieux naturels. C'est surtout ça qu'on veut enseigner, finalement.
Mm-hmm. Ben, c'est intéressant parce que ça ramène aussi comme une contradiction de façade qui dirait que la conservation des lieux naturels, ça peut pas aller avec la cueillette, puis encore moins avec la cueillette commerciale. Tu sais, comment tu répondrais à une critique qui dit on a déjà détruit tellement d'écosystèmes, il reste seulement nos écosystèmes sauvages et naturels, alors pourquoi vous voulez aller extirper des ressources puis encore plus faire de l'argent avec ça? C'est une critique qu'on entend. Toi, qu'est-ce que tu répondrais à ça?
Oh, moi, je réponds au contraire! Au contraire! puis il faut que ce soit bien fait, évidemment. Mais au contraire, ça a été démontré dans certains pays européens, d'ailleurs, qu'on arrive à aller chercher beaucoup plus d'argent dans une forêt en cueillant des PFNL, notamment, entre autres, les champignons, qu'en allant couper les arbres. Donc, si on peut voir nos forêts autrement que juste des endroits où on fait du bois puis des pâtes et papier, déjà, ça serait un immense avancement. Puis quand on cueille dans un milieu, le désir premier, c'est de maintenir ce milieu-là évidemment pour sa beauté, pour le lien qu'on a avec, mais aussi parce que ça devient notre gagne-pain. On n'a évidemment pas envie d'abîmer, de surutiliser une ressource qui devient notre gagne-pain. Donc, je pense que la très, 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 très vaste majorité des cueilleurs, même commerciaux, sont des gens hyper respectueux de l'environnement. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérive, là. Ça, il y en a toujours dans tous les secteurs. Mais de façon générale, les gens qui cueillent en forêt sont des gens qui ont un amour de la forêt. Puis après, ben, il y a aussi il y a des règles. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui sont protégées au Québec en vertu de la loi sur les plantes menacées et vulnérables. Donc, des plantes qu'on ne peut pas commercialiser. On pense à l'ail des bois, on pense au gingembre sauvage aussi. Mais on a aussi, comme cueilleur commercial, une responsabilité à un autre niveau qui est celui d'anticiper un engouement possible ou des dérives possibles. Parce que c'est vrai qu'il existe encore pratiquement pas de protocole pour la cueillette sauvage. C'est encore relativement peu réglementé. Puis on se doit, nous, comme cueilleur commercial, de se poser la question. Est-ce que je peux cueillir cette plante-là de façon pérenne? Si la réponse est oui, oui pour moi et mon entreprise, est-ce que la réponse serait positive aussi s'il y avait éventuellement un engouement pour cette plante-là puis que plusieurs entreprises se mettaient à la cueillir? Et c'est ce qui fait, par exemple, que chez Gourmet Sauvage, on choisit de ne pas commercialiser le lichen de caribou. Il y en a beaucoup. C'est très en demande. La cueillette commerciale n'est absolument pas interdite, mais le lichen pousse extrêmement lentement. Il est très fragile et il y a une grosse demande. Donc, si on se met à commercialiser, ben, ça va sortir à coup de centaines de kilos par année. Et c'est pas quelque chose qui est dans la logique de notre éthique à nous. Donc, c'est très important de toujours concevoir cette double responsabilité, celle de suivre les lois en place, mais celle d'anticiper de possibles dérives pour s'assurer que ce secteur-là se développe bien et que justement, on ne se ramasse pas dans 10 ans ou dans 15 ans avec un Far West de la cueillette. Il y a des règles hein, qui prévalent quand on cueille, c'est-à-dire que si on cueille un fruit, généralement, il y a aucun problème. On n'endommage pas la plante, donc on ne la met pas en danger. Lorsqu'on cueille les feuilles, ben là, il faut se poser la question, quelle espèce est-ce qu'on a devant nous? Évidemment, si on cueille des feuilles de pissenlit, ça n'aura pas le même impact que les feuilles d'une autre plante qui pourrait être plus fragile, comme la clintonie boréale, par exemple. Et puis, ben, quand on prélève la racine, alors là, il y a vraiment... un drapeau qui se lève, puis on doit se poser la question, est-ce que cette plante-là est vraiment assez abondante pour que je la prélève et donc que je l'arrache carrément là? Généralement, elle ne peut pas repousser après. Je reprends l'exemple du pissenlit. Il n'y a pas de souci à commercialiser la racine de pissenlit, mais il pourrait y en avoir pour d'autres plantes. Donc, je comprends tout à fait ce commentaire-là, cette question quand elle nous est posée. Est-ce qu'il peut y avoir un danger? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vouloir encore faire de l'argent avec nos forêts? Mais il reste qu'on est dans un monde où c'est vrai que c'est l'argent qui parle. Et s'il y a une façon, à mon avis, saine de travailler avec notre environnement, avec les gens qui sont autour de, avec la quantité de gens qu'on est, c'est de travailler le mieux possible avec nos milieux naturels tels qu'ils sont. Mm-hmm. Puis je pense qu'il y a tout à fait possibilité de le faire de façon pérenne. Mais il faut toujours, toujours rester aux aguets.
Mm-hmm. Puis sur le lichen des bois, tu dis qu'il y a une grande demande. C'est pour quel type de clientèle?
Ben en fait, c'est beaucoup la cuisine des pays nordiques européens qui a mis le lichen sur les menus. C'est pas particulièrement bon. C'est surtout une texture parce que le lichen généralement va être travaillé frit. Maintenant, c'est ça fait joli dans l'assiette. Donc, il y a souvent des restaurateurs qui veulent le mettre en garniture. Mais on a la chance, je pense, au Québec, d'avoir des restaurateurs très consciencieux, pas toujours très au courant de ce qui se passe. Il manque d'éducation encore. Mais moi, chaque fois que je m'en fais demander, j'explique pourquoi on n'en vend pas. Et puis, dans 99% des cas, les chefs disent « Oh, mais je ne savais pas. C'est sûr que je n'en mettrais pas au menu. » Ils ne vont pas essayer d'aller en chercher ailleurs chez quelqu'un qui en vend, par exemple. Puis, je fais ça avec d'autres plantes aussi. Et les chefs sont toujours heureux d'avoir de l'information parce qu'ils sont aussi pris dans leur cuisine. Des fois, les chefs ne sont pas ceux qui ont le plus l'occasion de partir sur le terrain, d'aller rencontrer les producteurs, les cueilleurs, d'aller en forêt, d'aller en champ. Ils sont toujours très contents quand on leur donne un peu d'informations sur l'intimité des ingrédients avec lesquels ils travaillent.
Mm-hmm. Puis ton anecdote sur la capre de Marguerite, c'est quoi?
Ah, ben c'est juste que ça dénote un peu comment certains produits phares sont apparus chez Gourmet Sauvage. En fait, Gérald, à l'époque, préparait un repas sauvage pour des amis, puis dans son menu, il voulait avoir des petits pois sauvages et pour accompagner, je pense, une viande. Et il est allé cueillir des boutons de marguerite. Il les a donc fait simplement blanchir. Il les a servis en petits pois avec du beurre. Puis quand quelqu'un a reçu son assiette, il a dit « Ah, des câpres! » Et puis là, ben, l'idée de faire des câpres avec des fleurs, puis il faut pas oublier, on est avant Internet, Pinterest, puis Instagram, parce que maintenant, des idées, des propositions de transformation avec des plantes sauvages, on en voit absolument partout. Mais il y a presque 20 ans, avoir l'idée de faire des câpres avec une fleur sauvage, ben, ça apparaissait pas au bout du téléphone ou de l'ordinateur. Et puis, donc, il s'est essayé, il en a fait avec plusieurs autres types de fleurs, puis le câpre de marguerite est vraiment resté dans nos produits et nos produits phares. Puis maintenant, il y a plusieurs autres compagnies qui en font aussi, puis c'est génial, ça fait en sorte que le produit circule plus. Mm-hmm. Il s'est passé un peu la même chose récemment avec l'essence de mélilot. Le mélilot, qui est une toute petite fleur, là, donc qui contient une molécule cousine de la vanilline qu'on trouve dans la vanille. Donc, la molécule s'appelle la coumarine. Et donc, l'odeur, l'arôme, le parfum fait vraiment penser à la vanille avec des notes un peu plus, je dirais, herbacées, puis des notes d'amande aussi que porte la coumarine. Et donc, on en a fait une vanille nordique il y a 3 ans à peu près. Et puis, c'est rare qu'un produit va se tailler une place aussi rapidement en restauration, puis ensuite, très, très rapidement auprès du public aussi. En quelques années, l'essence de mélilot, qui est notre vanille boréale, a vraiment fait sa place au Québec. Puis, des produits comme ça, des réussites comme ça, on n'en a pas tout le temps. Ça arrive une fois par 10 ans, par 15 ans. Puis quand je parle de réussite, je ne parle pas de réussite monétaire ou en termes de vente. C'est vraiment en termes de sens. Tu sais, ici, on a créé un produit qui nous permet vraiment de remplacer un produit qui vient de l'étranger, qui est quelque chose qui vient vraiment de notre terroir, qui est une plante qui pousse depuis presque toujours ici, mais qui n'était pas nécessairement utilisée beaucoup par les Autochtones, parce que là, on est on n'est plus dans un produit de... un aliment de survie, là, on est vraiment dans quelque chose de plus foodie, si on veut. Mais c'est beau de pouvoir, de temps en temps, comme ça, dans la recherche et le développement, tomber sur un produit exceptionnel, comme ça, qui vient chercher nos tripes, finalement. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là.
Mm-hmm. Tu sais, on parlait des dangers qu'un certain engouement pourrait donner à la pérennité de la ressource, là, si tout le monde se lançait à la cueillette d'une plante menacée ou vulnérable. Puis on l'a vu dans le passé, ces plantes-là sont menacées et vulnérables à cause de l'engouement de la cueillette. Mais il y a aussi un certain danger relié à la toxicité de certaines plantes. On pense souvent aux champignons, mais ton exemple du mélilot, il y a une molécule qui s'appelle la coumarine qui peut se développer dans une mauvaise manutention de la plante en elle-même.
Tout à fait.
Comment on peut... d'avoir mis le mélilot sur toutes les tables, comment tu peux gérer cet engouement-là si demain, il y a une série d'intoxications à la coumarine? T'sais, comment... est-ce que en plus de mettre le produit sur les grands étalages, il y a de l'éducation qui vient avec... puis là, on peut aussi rentrer sur le sujet de ton livre qui est aussi votre autre penchant à l'éducation.
Oui. Ben dans le livre, justement, on parle de cette notion de toxicité. Puis c'est intéressant parce que il y a deux choses qui se situent, deux éléments qui se situent complètement au pôle opposé. On travaille très fort, nous, pour reconnecter les gens à leur instinct, à leur nid à la forêt, en leur disant, écoutez, on vous a dit toute votre vie d'avoir peur de la forêt, puis de pas toucher à ça parce que c'est des petits fruits rouges, donc nécessairement, vous allez mourir. Mm-hmm. Donc, on travaille très fort pour reconnecter les gens à quelque chose de vrai chez eux, puis enlever cette peur innée, souvent, qu'on a. Et en même temps, de l'autre côté, ben notre travail, c'est de protéger le public, puis nous assurer que les gens qui sont initiés à la cueillette ou qui ont envie de s'initier eux-mêmes le fassent d'une façon sécuritaire. Puis entre les deux, ben la notion de toxicité se déploie en différents tons de vert, j'ai envie de dire. On va lire souvent dans les livres d'identification qu'une plante est comestible ou toxique. Or, toxique, ça veut dire beaucoup de choses. Toxique, ça peut être une toxine que votre corps rejette immédiatement puis vous en rendez même pas compte. Ça passe par des problèmes gastro-intestinaux puis ça peut aller jusqu'à la mort. Donc, la toxicité, c'est beaucoup de choses. Et très souvent, nos lieux d'identification, faute d'information ou par extrême prudence, vont dire quand une plante est toxique, ben, elle est toxique, c'est tout, faut pas y toucher. On va prendre l'exemple de, bon, je sais pas, de la petite oseille, de certaines plantes qui contiennent des oxalates. Donc, en effet, il ne faut pas les consommer en trop grande quantité, mais ce sont aussi des plantes qui sont extrêmement surettes. Donc, on ne penserait pas se faire un repas avec un kilo de salade d'oseille ou d'oxalide. Mm-hmm. Ça tombe sous le sens que c'est un élément qu'on va manger en aromate, en condiment, par exemple. Donc, il faut à la fois être ouvert, mais à la fois être très, très prudent. Puis dans cette mode de retour à la terre, de retour vers nos forêts qui est magnifique, dans ce désir que de plus en plus de gens ont d'apprendre le langage de nos forêts, il y a aussi souvent des choses, moi, que je vois qui me font peur quand je vois qu'il y a de l'info qui circule à gauche, à droite sur certains sites Facebook de cueillette où des gens qui n'ont pas de connaissances, pas de formation, s'identifient entre eux des plantes qui ont été mal photographiées, postées sur Facebook. Ça m'inquiète en effet. Les gens doivent demeurer prudents. Même avec des plantes qui sont comestibles, on ne sait pas comment notre corps va réagir quand c'est la première fois qu'on les ingère comme n'importe quel nouvel aliment. On pourrait avoir une réaction allergique. Ça m'est arrivé dans un atelier que je donnais tout récemment où une dame qui est très allergique au bouleau a dit « Écoutez, moi j'ai envie quand même de goûter au sirop de bouleau. » Ben, c'était assez risques et périls, mais elle a fait une grosse réaction parce que dans son cas, bon, c'était une allergie qui était connue, mais l'aliment lui-même, elle l'avait jamais goûté. Donc, il faut demeurer extrêmement prudent. En même temps, je mets un petit bémol là-dessus, on a aussi en épicerie des éléments qui se vendent souvent sans avertissement. Donc, on va penser à la morille fraîche qui est toxique, qui se vend en épicerie sans avertissement, à la tête de violon qui est très souvent vendue sans avertissement, aux graines de pavot, le kale, la bêta-carde contiennent aussi des oxalates en très, très forte proportion. Pourtant, il n'y a pas d'avertissement en épicerie. Donc, on a comme consommateur toujours, toujours à s'informer. Et on est vraiment responsable de ce qu'on mange. C'est ça aussi, s'alimenter en forêt. C'est reprendre le pouvoir sur notre alimentation, mais ça vient avec une responsabilité, ça, qui est pas juste la responsabilité de celui qui dit comment manger ça. On est toujours responsable de ce qu'on mange. Qu'on mange des produits sauvages ou qu'on mange du fast-food puis de la cochonnerie, on est responsable de déterminer ce qui entre dans notre corps.
Ça serait quoi, mettons, un cursus progressif pour quelqu'un qui veut s'intéresser aux plantes sauvages? Par où commencer pour éviter ce genre d'empoisonnement ou de comment toi, dans tes cours, ou comment vous approchez les gens à s'initier à ça puis à construire une connaissance de plus en plus grande?
Il y a souvent chez les gens une impression que parce qu'il y a des risques de danger, il faut maîtriser absolument toutes les variables avant de se lancer dans la cueillette sauvage pour s'assurer qu'on n'aura pas de problème. Or, c'est tout le contraire. Il y a des règles de base à suivre, mais nous, on dit souvent aux gens, vous n'avez pas besoin de tout savoir, commencez avec ce qui est facile, ce qui est évident, puis amusez-vous avec ça. À travers cet exercice-là, d'une part, vous allez prendre un peu de confiance, puis votre œil va commencer à s'aiguiser. Vous allez commencer à maîtriser un langage aussi d'identification dans les livres. Vous allez commencer à observer les plants, puis à voir est-ce que les petits poils, est-ce que la tige est de telle façon, est-ce que la fleur s'ouvre à tel moment de la journée, ainsi de suite. Donc, on va se familiariser avec ces notions d'identification, mais avec des plantes très faciles. On a déjà fait l'exercice dans un gazon non traité d'une cour d'identifier 35 plantes comestibles, sans sosie toxique, sans danger, avec lesquelles on peut se faire des salades, des petits trucs assez simples. C'est déjà un magnifique départ. On n'est pas obligé de se lancer tout de suite vers ce qui est le plus difficile, vers la plante rare ou la plante difficile à identifier ou celle qui a des sosies toxiques. On commence avec ce qu'on connaît. On commence avec la marguerite, pourquoi pas, avec la petite oseille. On commence avec le chou gras qu'il va avoir au jardin, avec le pourpier. Des plantes qui sont à portée de main, puis à portée d'identification aussi. Puis graduellement, ben on en ajoute. Et puis graduellement, notre vocabulaire s'est raffiné, puis nos techniques d'identification, puis on est plus confortable aussi. Puis à un moment donné, ben peut-être qu'on est tous des Gérald Le Gall, puis on est capable de reconnaître une plante à 3 km en voiture. Mais avant cette étape-là, avant d'être un Gérald Le Gall, il y a beaucoup, beaucoup de plaisir à avoir quand même.
Mm-hmm. Tantôt, tu as utilisé le mot « mode » pour parler un peu d'un retour à la terre, à la forêt. Mais par définition, une mode, ça meurt. Est-ce que tu as l'impression que le secteur des PFNL est une mode, est victime de cette mode-là, ou c'est une tendance de fond qui ne va qu'en augmentant?
Le secteur des PFNL, c'est une tendance de fond, ce n'est pas une mode. Je pense qu'on est collectivement en train de prendre conscience de tout ce qu'on a rejeté de notre environnement, de tout son potentiel. Je pense que c'est là pour rester. Ça va prendre des formes différentes avec le temps. Ça va probablement devenir un peu plus commercial. Puis c'est tant mieux à certains égards. On va peut-être perdre un peu de son côté artisanal à certains égards, comme c'était le cas, par exemple, avec la tête de violon il y a 20 ans qui était encore inconnue. Puis maintenant, bon, on en trouve de la surgelée dans toutes les épiceries, même en hiver. Pratiquement, c'est une très grosse industrie. C'est passé la même chose avec les champignons. Il n'y avait presque pas de champignons au Québec il y a 20 ans. Maintenant, il y a vraiment un marché pour le champignon sauvage. Donc, tout ça évolue beaucoup. Ça, je ne pense pas que c'est une mode. Ce qui est peut-être une mode, c'est qu'on appelle en bon français des fois un peu les fake bake, donc les espèces de recettes instantanées, cool, belles et instagrammables à partir de plantes sauvages qui des fois manquent un peu de profondeur, pour lesquelles des fois il y a eu des petites entorses faites sur l'identification ou l'utilisation de la plante. Moi, c'est cet aspect-là qui m'inquiète un peu. Puis en même temps, je pense que de façon générale, les gens qui s'adonnent à la cueillette le font parce que ça fait du sens pour eux, parce qu'ils ont véritablement envie de le faire aussi, pas simplement pour bien paraître.
Mm-hmm. Puis toi qui as un background en communication, là, qu'est-ce que tu penses du terme PFNL pour vendre tes produits?
C'est très, très, très aride, PFNL. Je parle souvent de produits sauvages comestibles. Mm-hmm. Je pense que c'est un peu plus facile à intégrer que les PFNL. Hein. On croirait entendre un acronyme gouvernemental. Il faut trouver un nom plus sexy, je suis d'accord. On parle souvent de comestibles forestiers. Maintenant, un comestible, c'est pas un nom, c'est un adjectif, mais peut-être qu'on pourrait faire changer ça. Le terme PFNL, je pense, ne sera jamais vraiment répandu à travers le public. Ça reste un terme un peu hermétique pour les gens du milieu.
As-tu déjà entendu le terme forestible?
Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Encore là, il faut l'expliquer aux gens souvent, donc il y a de l'éducation à faire là-dessus. Parce que quand on parle de forestible, les gens plissent des yeux et tendent l'oreille. Puis c'est faut toujours se rappeler aussi que il y a des gens pour qui c'est quelque chose de beaucoup plus intégré d'aller chercher des produits en forêt, mais il y a encore une très, très vaste majorité de la population qui n'a aucune idée qu'il y a des choses qui peuvent se consommer en forêt autrement que les mûres ou les framboises ou les fraises. Moi, je suis encore étonnée après 27 ans, parce que je suis impliquée dans l'entreprise quand même depuis les tout débuts. Hein. Quand j'étais jeune, je faisais les salons avec Gérald et tout. Mais 27 ans plus tard, on fait des salons, puis il y a encore des gens qui s'étonnent de voir pour la première fois de leur vie des cœurs de quenouille marinés ou des gousses d'asclépiade ou un sirop fait à partir de roses sauvages. Il y a des gens de plus en plus éduqués par rapport à ça, mais il y a encore beaucoup de gens qu'il faut convaincre que notre alimentation naturelle, originelle, était une alimentation en forêt et que ce qu'on fait, aussi merveilleux que ce soit, ce n'est pas, c'est pas bizarre. C'est ce qu'on était, c'est d'où on vient. quand on parle d'éducation, c'est ces gens-là qu'il faut aller retrouver, tu sais, puis dire, ben, en fait, c'est la nourriture en barquette qui n'est pas la norme. On est allé vers ça, on peut l'accepter, mais c'est ça qui n'est pas la norme. La norme, c'était d'aller chercher directement en forêt, sur le bord des cours d'eau, puis de cueillir avec nos mains, puis d'amener ça à notre bouche et de consommer ça sans aucun intermédiaire. C'était ça la norme. Donc, il faut vraiment... Il y a un changement de paradigme qui doit être opéré. Évidemment, on ne peut pas nourrir toute la population à partir de ce qui vient de nos forêts, mais on peut certainement accorder beaucoup plus grande importance à ce qui pousse à proximité de nous.
Mm-hmm. Tu sais, tu parles de changement de paradigme, ça c'est évident, mais il y a un spectre entre le sauvage et l'agriculture. Tu sais, puis oui, les chasseurs-cueilleurs, c'était leur façon naturelle de se nourrir puis d'avoir leur apport calorifique le plus grand, mais même chez les peuples agricoles, nos ancêtres, qu'ils soient européens ou semi-cultivateurs, c'était une nourriture d'appoint. Et même dans plein de cultures encore dans le sud de l'Europe, c'est normal d'aller à la cueillette des asperges sauvages, des champignons pour agrémenter les plats puis aller chercher des micronutriments. Il y a tout un aspect plus nutritionnel que calorifique aussi à la cueillette sauvage. Puis les plantes médicinales aussi rentrent là-dedans, tu sais. Donc, c'est pas un changement de paradigme total. On passe de, tu sais, l'agriculture, on laisse ça de côté puis on vient des peuples de cueillette.
Oh non, sauvage. Absolument. Absolument. Puis d'ailleurs, même nous autres, on commence vraiment à explorer beaucoup à titre d'entrepreneur, mais aussi à titre de consultant en ce moment, notamment avec la MRC de Laurentides. On est sur un projet pilote dans lequel le MAPAC s'est impliqué, mais on explore beaucoup, beaucoup la culture des PFNL, parce que c'est une voie d'avenir, clairement. On cueille beaucoup de monarde chez Gourmet Sauvage, mais on n'en a pas assez pour subvenir à la demande. Or, la monarde demande très, très peu un sol, donc on a des amis cultivateurs qui vont la mettre en champ, puis on va pouvoir en récolter plus, mais ça va provenir de graines sauvages. Puis je pense que tout ça est très, très cohérent. Ça sert à rien d'être puriste, en effet, puis de dire, ben moi, absolument que ce soit 100% parfaitement sauvage. Après, ben, y a des choses qu'on n'aura jamais besoin de cultiver. On cueille des pousses de sapin puis des pousses d'épinette en assez grande quantité. On n'a pas besoin d'aller en champ pour ça. La forêt est tout à fait capable de subvenir aux besoins. Donc, ça dépend vraiment des plantes, mais je suis d'accord que dans ce changement de paradigme, en fait, c'est juste de comprendre. Le public doit avoir, à mon avis, une meilleure compréhension de ce que c'est qu'une nourriture de très grande proximité, puis une nourriture, comme tu le disais, beaucoup plus nutritive aussi, tu sais, qui n'est pas passée par des modifications, des croisements, des hybridations, une culture dans des pays étrangers pour en extraire des graines dans des conditions pas possibles. Les graines nous sont renvoyées à fort prix. La plante pousse dans des serres chauffées, shootées aux engrais. Tu sais, c'est là que notre alimentation n'a plus de sens. Mais après, entre le jardin et la forêt, ben, je pense qu'il y a beaucoup de matière là pour améliorer notre alimentation.
Mm-hmm. Puis, vous avez écrit un livre dernièrement qui a été un très fort succès. Si tu pouvais en parler un peu du processus qui vous a amené à l'idée seulement. Je sais que Gérald avait déjà écrit des livres, mais pourquoi ce livre? Pourquoi maintenant? Puis pourquoi cette forme-là?
Quand on a pris la décision, Pascal et moi, de venir s'installer dans le Nord puis de reprendre Gourmet Sauvage, j'avais une crainte de... Je sentais qu'il y avait une espèce de course contre la montre pour reprendre toutes les connaissances de mon père. Puis le premier geste qu'on a posé, ça a été ça. Ça a été de consigner son savoir. Puis ça a pris la forme d'un livre. On savait qu'il y avait un éditeur intéressé. On voulait faire ce qui était dans notre tête. C'est peut-être un peu naïf, mais on se dit, on va faire l'ultime livre des plantes sauvages, pour nous, à nos yeux, évidemment. Là. On n'a pas la prétention de dire que c'est véritablement l'ultime livre des plantes sauvages, mais de la façon dont on le percevait, c'est ce qu'on voulait faire. Donc, on s'est lancé dans une aventure de slow booking. Ça a pris 4 ans à écrire. Notre éditeur a été très patient. Il nous a dit, ben, allez-y, amusez-vous. Puis, évidemment, un contexte d'écriture, quand on est sur le sauvage avec des recettes en plus, ben, si on manque une saison, il faut attendre à l'année d'après pour pouvoir faire la recette. Donc, ça a été très long à écrire, mais pas laborieux. Ça a été long, mais ça a été agréable à faire. Et puis, quand on s'est rendu à l'édition, on a réalisé qu'il y avait, il y avait un tiers de trop. Donc, il y avait 200 pages de trop. Puis, on a réalisé ça parce que quand on écrit un livre, on l'écrit en Word. Hein? Donc, on écrit un nombre de mots, mais ce n'est pas coulé dans une grille graphique. Donc, quand la firme de design nous a envoyé le graphisme, puis a dit, ben voici, c'est la grosseur du livre, puis ça va être présenté de telle façon, ben là, tu coules ton texte dedans et c'est là que tu réalises exactement combien de pages ça va faire. Et donc, on a charcuté 200 pages, ça fait atrocement mal, mais c'était nécessaire parce que sinon, le livre aurait été beaucoup trop cher. Et puis, il y avait encore ce souci-là d'accessibilité, qui est le même souci qu'on applique au prix de nos produits, au prix de nos ateliers, qu'on essaie de vendre pas trop, trop cher pour que les gens puissent venir avec leurs enfants. Ce livre-là, on avait envie que les familles se l'achètent pour aller à la cueillette. Donc, voilà un livre qui, on n'avait pas d'attente en nous par rapport à la réception. On savait qu'on aurait une petite base de gens très contents d'aller cueillir, mais on n'avait aucune idée qu'il y aurait autant de gens d'autant d'horizons diversifiés. Donc, des foodies super urbains qui achètent le livre, qui n'iront jamais à la cueillette, mais qui rêvent d'un petit bout de campagne. Des chasseurs qui ont envie aussi de faire autre chose quand ils partent à la chasse. Ils sont dans le bois, il y a toutes ces plantes autour d'eux, puis souvent, ils ont peu de connaissances par rapport aux plantes. Beaucoup de mères de famille, de femmes qui sont les gardiennes du garde-manger, de la pharmacie aussi, donc qui s'intéressent à faire leurs produits à la main, que ce soit pour les cosmétiques, les remèdes, l'alimentation aussi. Les hommes, des femmes, des grands-parents qui achètent ce livre-là pour cueillir avec leurs petits-enfants. Donc, la notion de transmission qu'il y avait entre mon père et moi, je suis très heureuse de voir qu'elle est présente aussi chez les gens qui achètent notre ouvrage. C'est très, je ne vais pas dire réconfortant, mais ça rend très, très heureux de sentir qu'on a fait œuvre utile. En fait, j'avais ce sentiment de, quand j'ai remis le livre corrigé à la dernière correction à l'éditeur, on avait, Gérald et moi, ce sentiment-là d'offrir un leg en quelque part. Puis je ne veux pas que ça sonne présomptueux parce que ce livre-là, il n'est pas parfait, puis on aurait pu faire plein d'autres choses, mettre beaucoup d'autres contenus, mais j'avais l'impression de donner un petit bout de notre histoire, puis de notre vision de notre histoire, puis de notre lien avec la nature, en me disant, bon, ben c'est parfait, il y a une autre pièce dans le puzzle que les gens pourront utiliser pour construire leur relation avec la forêt, finalement.
Est-ce que tu as été surprise de la réception puis de l'engouement, ou tu savais que c'était un succès garanti?
Non, on ne savait pas que ça serait un succès garanti. On aurait imprimé plus d'exemplaires la première fois, ça avait été le cas. On est déjà retourné deux fois en impression, donc il y a eu trois impressions depuis le mois de mai. Donc, on est surpris à chaque fois. On retourne en impression, puis ben là, Noël est arrivé, beaucoup de gens l'ont offert en cadeau. Non, on a été hyper surpris, on ne s'attendait absolument pas à ça. Quand on écrit un livre, on l'écrit évidemment pas pour être riche. On le fait parce qu'on sent qu'on a quelque chose à dire ou à partager, puis on l'a vraiment fait pour ça. Puis tant mieux si ça trouve écho chez les gens, tant mieux.
Est-ce que tu as vu un changement dans vos ventes, vos activités par rapport à la réception du livre?
La réception du livre coïncide avec le changement de notre image de marque aussi au printemps. Donc, on a connu une belle année, entre autres grâce à ça. Et puis, on a fait bien attention dans... Je pense que les gens savent que quand on achète le livre, bon, ben, Gérald et Ariane ont une compagnie qui s'appelle Gourmet Sauvage, mais on le mentionne seulement au début du livre, dans notre historique. Sinon, notre logo est nulle part. Notre objectif, c'était vraiment pas de faire des ventes croisées. Tant mieux si ça bénéficie aussi à l'entreprise, mais c'est comme un projet à côté. Ça fait partie de qui on est, évidemment, puis de notre entreprise, là, je veux... Mais c'était pas... c'était tellement pas un coup de marketing ou une opportunité de vendre plus de pots. Tu sais, on l'a vraiment pas vu comme ça. Pour moi, ce livre-là, c'est comme un petit écrin. Là. Ça a été une pause dans notre vie d'entrepreneur qui, des fois, va trop vite et qui est très exigeante. Ça a été une pause, un moment de réflexion pour me reconnecter à ce que mon père a accumulé comme savoir, le challenger aussi, parce que Gérald me fournissait le contenu de base Puis moi, je me le réappropriais, j'en faisais la rédaction, puis je le challengeais. Ouais, pourquoi tu cueilles cette plante-là comme ça? Parce que moi, je l'aurais cueillie comme ça, ou je l'accueille de telle façon. Ou... Parce que, tu sais, Gérard, ça fait des années qu'il fait son métier aussi. Donc, on tombe dans des réflexes des fois, où on arrête de se questionner. Donc, ce livre-là a été l'occasion de revoir des méthodes, de retrouver des plantes qu'on avait arrêté de consommer aussi. Parce que là, ben, on était obligé, pour, dans le cadre d'une recette, de cueillir, et puis tester des trucs. À un moment donné, tu dis, ah, c'est vrai, ça faisait des années que je n'avais pas vraiment mangé ça, mais que c'est bon, tu sais. Donc, c'est ça, c'est une petite pause dans notre vie d'entrepreneur, ce livre-là, je dirais. Ça donne envie d'en écrire d'autres. Ça prendrait juste un autre 4 ans.
Ah, c'est ça. Comment s'est fait le choix des recettes? Est-ce que c'est de la créativité en cuisine? Vous avez travaillé avec des restaurateurs, comment ça s'est fait, ce choix-là?
Les recettes ont été... certaines sont des classiques qu'on fait dans la famille depuis toujours. Puis les autres, ça a vraiment été inventé sur le fly, en bon québécois, en fonction de ce qui poussait à ce moment-là, puis de l'inspiration de la cuisine. Puis certaines recettes ont dû être retravaillées plusieurs fois là, pour arriver au résultat optimal. Mais je dis souvent, d'ailleurs, que la cuisine des aliments sauvages nous permet de reconnecter avec notre créativité. Quand on va en épicerie, on retrouve presque à l'année les mêmes aliments dans la même forme qui goûtent et sentent la même chose. Donc, on rentre souvent en épicerie en disant « ben je vais faire telle recette, donc je vais acheter tel ingrédient ». Puis c'est complètement l'opposé qui se passe quand on est en cueillette sauvage. On ne peut pas déterminer ce qu'on va faire avant de partir à la cueillette. Et puis, on doit prendre ce qu'il y a devant nous ou ce qu'il n'y a pas devant nous, parce que des fois, on vient aussi quasiment bredouille, et jouer les entremetteurs de saveurs, puis présenter les aliments entre eux, parce que des fois, on a l'impression qu'ils ne vont pas nécessairement bien s'entendre dans une casserole, mais ça peut être le cas. Et ça donne lieu parfois, c'est ça, à des petits bijoux. On a conçu le livre, par contre, pour que les recettes soient extrêmement simples. L'objectif, c'est d'amener les gens à cueillir. Donc, il ne fallait pas que la recette après soit compliquée ou nécessite trop d'ingrédients. Donc, on est allé sur des choses relativement, je dirais, conventionnelles ou connues. On n'a pas cherché à trop pousser pour ce qui est des recettes elles-mêmes. On voulait que les gens soient confortables avec ça. Donc, c'est sûr que s'il y avait un prochain livre, ben, je pense que je me permettrais de m'éclater beaucoup plus, puis de faire une recette, une cuisine qui ressemble peut-être un peu plus à celle de mon quotidien, qui est vraiment, vraiment en fonction de ce qui pousse autour de moi, dans ma permaculture, ma forêt, mon potager, puis de ce qui est disponible. Je travaille beaucoup en fonction des couleurs puis des textures qui sont à ma portée. Oui, il y aurait cette dimension-là qui serait probablement ajoutée dans un autre ouvrage, mais c'est important pour nous de demeurer très, très accessible dans le premier.
Tu as parlé d'un souci d'accessibilité qui est vraiment au centre de votre démarche, des produits que vous faites, des formations que vous donnez, du livre que vous avez édité. Est-ce que tu n'as pas l'impression que les comestibles sauvages ou les PFNL, des fois, sont devenus l'apanage de la grande restauration, de la grande gastronomie, et qu'on perd cette accessibilité-là? C'est quoi, pour toi, la place qu'ont les restaurateurs, les grandes tables, dans cette accessibilité-là, s'ils ont un rôle à jouer?
Les produits forestiers comestibles seront pour la plupart toujours un peu plus chers que les produits de la consommation de masse. Là, ça va de soi, ne serait-ce que de par le temps qu'ils nécessitent pour la récolte puis après la transformation. Maintenant, moi, je vois un changement plutôt dans le sens contraire. Donc, au tout départ, on était, malgré ce désir d'accessibilité, nos produits étaient vraiment vendus uniquement dans les restaurants nappes blanches. Les gens au détail achetaient nos produits pour les anniversaires, le temps des fêtes, Pâques, vraiment les moments spéciaux. On était vraiment dans le cadeau. Et puis, il y a à peu près 6 ou 7 ans, j'ai vu ce marché-là complètement changer. Les gens vont acheter nos confitures maintenant pour les consommer au quotidien parce qu'ils savent que, ben oui, la confiture, elle est peut-être 7 ou 8 $ pour un petit pot qui serait 3,99 à l'épicerie. Mais c'est une pectine de fruits qu'il y a dedans. C'est du sucre biologique en très petite quantité. Puis ce sont des fruits qui ont été cueillis à l'état sauvage, qui sont bourrés de nutriments. Donc, les gens vont faire un choix de consommer peut-être moins, mais de consommer mieux. Donc, au détail, il y a vraiment un changement qui s'est opéré. Puis, en restauration, évidemment que les restaurants haut de gamme seront toujours d'extraordinaires ambassadeurs des produits forestiers. Et c'est nécessaire parce que ce sont souvent eux qui font connaître au public ces produits-là qui, après, rentrent dans le garde-manger des gens. Mais on voit aussi ces produits-là apparaître dans des bistrots beaucoup plus accessibles, des restos moyenne gamme. Donc, je vois tout à fait, moi, un avenir où il pourrait y avoir des restaurants, même dans le fast-food haut de gamme, des bonnes sandwicheries et compagnie, des trucs pour emporter, mais bien faits. C'est quelque chose qui est de plus en plus en demande aussi, qui n'est pas juste un repas à 200 $ par la tête, puis du fast-food sans nutriments. Entre les deux, il y a tout à fait possibilité d'avoir des mets, par exemple, de restauration rapide, mais hyper nutritifs, puis très, très bons aussi. Et on est en train de se tailler une place dans ce secteur-là. C'est pour le mieux. Je pense que le PFNL, à moyen terme, vont être présents dans chacun de ces types d'établissements ou dans toutes ces sphères commerciales-là.
Puis vous ne cueillez pas l'ensemble de vos PFNL?
Non, pas personnellement. Donc, quand on a commencé il y a 27 ans, on avait 4 produits, puis on cueillait nos 4 produits nous-mêmes avec notre petite équipe. Et puis, là, on a rajouté un produit, puis on a engagé un cueilleur, puis un autre cueilleur. Puis, ces cueilleurs-là sont devenus des très proches collaborateurs. Là. Ce sont des travailleurs autonomes. On est évidemment à l'époque où il n'y a pas de groupe Facebook de cueilleurs commerciaux. Il n'y a personne qui fait de la cueillette commerciale, ou presque, à part une ou deux entreprises. Mais c'est pas un métier auquel les gens se hasardent, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de réseau du tout. Donc, chaque personne qui commençait à cueillir, on devait la former de façon générale, mais la former aussi pour qu'elle cueille selon la façon dont on voulait qu'elle cueille le produit vraiment pour nous. Et puis, le marché a évolué au fil du temps. Puis maintenant, on a plusieurs produits qu'on ne cueille pas nous-mêmes. Donc, on va faire affaire, par exemple, avec un groupe de cueilleurs. Moi, j'ai un groupe de cueilleurs en Gaspésie qui va cueillir nos petites fraises sauvages puis nos boutons de marguerite. Mais ce cueilleur-là travaille avec nous depuis 23 ans. Donc, c'est de la famille, pour ainsi dire, 23 ou 22 ans. Et puis, on a un autre cueilleur, par exemple, en Abitibi, qui est vraiment chargé de notre école du thé du Labrador. Ben lui, ça fait 20 ans qu'il est avec nous. Et puis, plus récemment, on a vu beaucoup de ce que j'appelle les cueilleurs du dimanche, des gens qui ont envie de faire un peu de cueillette la fin de semaine ou le soir là, pour compléter leur travail régulier ou en saison morte. Puis ces gens-là nous appellent, ils nous offrent des produits, mais on ne fait jamais affaire avec des cueilleurs qu'on ne connaît pas. Donc, ou sinon, on teste. Ça nous est arrivé récemment là, de travailler avec une ou deux nouvelles personnes. Dans ce temps-là, on demande de nous envoyer des échantillons. On a toujours une discussion avec eux au téléphone avant pour savoir, c'est quoi leur portrait. Est-ce qu'ils sont juste là pour nous vendre quelques kilos de chanterelles puis après ça disparaître? Parce que c'est absolument pas intéressant de travailler de cette façon-là, ni pour nous, ni pour le secteur de façon générale. On paye jamais au noir. On paye toujours déclaré pour s'assurer que le secteur soit reconnu puis que les gens qui ont envie de faire de la cueillette un métier le puissent, que ça reste pas quelque chose de super alternatif qu'on fait au noir. C'est hyper important pour nous.
Il y a souvent cette question-là qui revient, est-ce qu'on peut vivre de la cueillette? Qu'est-ce que tu répondrais à un jeune qui s'intéresse à ça, qui t'appelle, qui serait intéressé à vous vendre des produits? Ça serait quoi les trucs que tu lui donnerais pour avoir un revenu intéressant?
Ben, je dirais premièrement, tu risques pas d'y arriver, mais écoute-moi pas. Parce que quand Gérald a fait son plan d'affaires à l'époque, ça fonctionnait pas du tout, là, sur papier. Il manquait de liquidité, il manquait de compétences. Tout le monde lui disait, c'est bien beau, mais tu réussiras jamais. Il a mangé ses bombes, il a réussi, puis aujourd'hui, on est trois personnes à en vivre, puis on a des employés aussi avec nous. On est une toute petite compagnie familiale, mais on en vit tout à fait décemment. C'est vraiment pas facile, il faut pas peindre ce milieu-là en rose, mais il y a une demande. Il suffit vraiment de s'organiser, Je pense que la meilleure voie pour quelqu'un qui commence, ce n'est pas de se diriger vers le détail. Parce que tout ce qui est mise en marché, marketing, site web, trouver les pots, démarcher la clientèle, c'est extrêmement demandant, c'est cher aussi, c'est pas évident. Souvent, les cueilleurs vont dans des régions un peu plus éloignées. Donc, quand on est au fin fond d'une région rurale, ben, des fois, acheminer nos produits à Montréal coûte très, très cher. Fait que là, la revente est difficile. Je pense que la façon la plus facile de tester si on a envie de cette vie-là, c'est d'approcher des entreprises qui achètent des produits puis de faire de la cueillette d'abord en groupe pour voir si. Est-ce qu'on a envie de se lancer la main? Est-ce qu'on a envie de s'équiper de séchoirs? Est-ce qu'on a envie de cueillir 10 heures par jour? Est-ce qu'on a envie de cueillir même quand ça fait une semaine qu'il ne fait pas beau, mais là, il faut vraiment y aller? Ou est-ce qu'on a envie de chercher des talles à n'en plus finir? Parce que des fois, ben, les chanterelles n'ont pas poussé cette année. Puis, tu sais, c'est pas un milieu facile, mais c'est un milieu qui est très, très gratifiant. Puis, je pense que de le tester en cueillant d'abord pour fournir comme grossiste, est une bonne façon de voir si on aime ça. Puis après, ben, si on a envie de se lancer dans le plaisir d'avoir nos petits pots, ben, pourquoi pas? Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mm-hmm.
Les prochaines étapes pour Gourmet Sauvage, tu nous as parlé d'un nouveau livre.
non, mais c'est pas non, tout de suite.
Mais ça ressemble à quoi sur ton idéal là, sur 5 ans?
Ah, j'ai plein de projets, mon Dieu! Ça ne veut pas dire qu'on va tout se réaliser. D'ailleurs, j'entends déjà mon père puis Pascal me dire de me calmer les ardeurs. Mais à courte échéance, Gourmet Sauvage est sur un site magnifique, là, une ancienne pisciculture dans les Laurentides. Puis on déménage, donc on va changer de local. On fait construire un nouveau local. Et il y aura une boutique à même ce local-là qui va être ouverte à l'année. On a aussi un café qui est en opération seulement l'été, là, qui va être en opération pas mal à l'année, avec une super offre. Justement, de ce dont on parlait tout à l'heure, là, une offre de restauration rapide, haut de gamme, avec plantes et champignons sauvages. Donc, à court terme, c'est de renforcer vraiment nos activités agro-touristiques sur les lieux. C'est comme une façon de faire un peu de décroissance dans la croissance, finalement. Donc, en concentrant nos activités chez nous, on va pouvoir dégager un peu plus de profit à partir de la même quantité de produits, donc sans avoir à produire nécessairement plus pour desservir des nouveaux marchés, puisque c'est pas non plus notre objectif. Puis poursuivre aussi l'éducation. Donc, on a des formules d'atelier en forêt qui durent une journée. Mais on va se diriger aussi vers des formules un peu plus courtes pour les gens qui auraient juste envie de venir faire une petite saucette, des ateliers d'une heure à 3 heures à peu près sur différents sujets qui vont toucher à la forêt, mais qui seront plus peut-être exclusivement sur la cueillette elle-même. Parce qu'on se rend compte que notre clientèle a envie de beaucoup plus que juste cueillir des plantes sauvages. Ils veulent aussi en apprendre sur les oiseaux, sur la permaculture, sur les lactofermentations. Donc, on veut arrimer autour de ce qu'on fait des formations sur le bien-être, finalement. Puis dans ma vie rêvée, ben j'aurais aussi des conférenciers invités. J'ai très envie de travailler avec la communauté internationale de foragers, de cueilleurs à travers le monde. Je sais pas quelle forme ça va prendre, mais de diffuser les savoirs entre pays, entre provinces, en faisant venir des gens pour apprendre de leur relation à leur nature, à eux. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup. J'ai plusieurs idées par rapport à ça, mais ça ne se développera pas tout de suite. Je laisse le tout mijoter encore un peu.
Mm-hmm. Si les gens veulent avoir plus d'informations sur justement votre offre de formation, puis le lieu agrotouristique à Saint-Faustin, on les dirige vers où?
On les dirige vers le site web gourmetsauvage.ca, tout simplement. Facebook aussi, compte Instagram, on est assez actifs, il y a toujours beaucoup d'infos. Puis on publie beaucoup de recettes, des recettes qui ne sont pas nécessairement faites à partir de nos produits, mais à partir de ce qu'on peut trouver en forêt. Donc, ça vaut la peine de nous suivre, ne serait-ce que pour ça, pour préparer la belle saison qui tarde à venir, mais qui va bien se pointer un jour.
Merci, Ariane, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ton expérience, puis... Je pense que tu as un calendrier assez chargé dans les prochaines années, puis on va regarder ça de près.
Ça a été vraiment un plaisir partagé.
Merci.
À bientôt.